Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Xavier Sartre.
L'interview du père Federico Lombardi, directeur de la salle de presse du Saint-Siège, au sujet du livre « L'homme qui ne voulait pas être pape » de Nicola Dia. Le père Lombardi veut battre en brèche certaines accusations graves qui sont inexactes ou non vraies formulées dans l'ouvrage. Ouverture cette semaine du procès des Femmes qui s'était introduite dans la cathédrale Notre-Dame de Paris il y a un an. L'abbé Pierre-Hervé Grosjean, co-auteur du site Padre Blog, revient sur les attentes que suscite ce procès. Et puis les chrétiens d'Égypte s'organisent, ils célèbrent le premier anniversaire de la création du Conseil National des Églises Chrétiennes. 5 confessions y sont représentées et abordent toutes les questions, notamment théologiques. Bienvenue dans le magazine de Radio Vatican. C'est un livre qui a fait pas mal parler de lui ces dernières semaines en France. « L'homme qui ne voulait pas être pape » de Nicola Dia, ouvrage publié chez Albin Michel. Beaucoup de choses sont dites dans ces pages et le père Federico Lombardi, directeur du bureau de presse du Saint-Siège et de Radio Vatican, a souhaité réagir. Le livre contient en effet des accusations graves qui sont inexactes. Tout en saluant les efforts déployés par l'auteur pour offrir un éclairage approfondi du pontificat de Benoît XVI, le père Lombardi critique la méthode et l'esprit qui anime ce livre et conteste donc la véracité de certains passages.
C'est un livre qui a une certaine importance, je pense, surtout dans le milieu de langue française. Et c'est directement sur le pape Benoît XVI et sur toute une série d'événements du Vatican très importants. Dans le livre, il y a des accusations qui, je suis convaincu, qui ne sont pas justes et sont graves. Alors, je devais en conscience réagir.
Alors, vous saluez l'effort qui a été fait pour analyser et approfondir le pontificat de Benoît XVI, pour lequel Nicola Dia semble avoir une admiration sincère, mais vous avez justement, vous venez de le dire, des réserves au sujet de certains passages. Lesquels ?
Ce sont exactement des accusations précises contre une série de personnes nommées avec nom et prénom et qui ne sont pas fondées sur des éléments sûrs. Dans quelques cas, les accusations sont absolument sans fondement ou sont faites sur des déclarations anonymes. Et ça n'est pas acceptable.
Vous déplorez les accusations fausses, inexactes, sans fondement, mais vous déplorez aussi, je crois, la méthode qui consiste à ne pas citer les sources quand il s'agit de jugements négatifs et à citer toutes les personnes rencontrées à la fin du livre, en vrac.
Bon, c'est vrai, à la fin, il y a toute une série de remerciements de personnes et ce sont des situations totalement différentes. Il y a sûrement des personnes qui l'auteur a rencontrées longuement et qui ont fait à lui des confidences ou des témoignages. Mais il y a d'autres qui ne l'ont pas rencontré personnellement. Il y a d'autres qui ne s'identifient absolument pas avec l'orientation du livre et la façon dans laquelle des accusations y sont faites. Il y a d'autres qui l'ont rencontré, mais pour d'autres raisons. Alors, c'est vraiment une impression incorrecte qui est donnée avec cette série. Il semble qu'il y a une grande convergence des témoignages qui appuient sa perspective et son œuvre.
Alors, au-delà des accusations souvent graves qui sont adressées à certaines personnes, ce que vous regrettez aussi, père Lombardi, c'est que l'auteur, en ranimant une période douloureuse, ait d'une certaine manière trahi l'effort qui a été fait par Benoît XVI et puis par son successeur, le pape François, pour clore définitivement ce chapitre.
Oui, exactement. En lisant le livre, en voyant des témoignages anonymes d'accusations très graves, je me sens comme replongé dans une atmosphère qui sûrement Benoît XVI voulait dépasser définitivement. Et c'est la même atmosphère qui est alimentée par des discours qui le pape François appelle « chiacchiere », c'est-à-dire qui sont des opinions sur les autres, qui sont gravement dommageables pour leur réputation.
des propos recueillis par Romilda Ferrotto. Et vous pouvez retrouver l'intégralité de la mise au point du Père Lombardi sur notre site internet www.radiovaticana.va. Il est possible de résister à la séduction des tentations seulement lorsqu'on écoute la parole de Jésus. C'est ce qu'a affirmé le pape François lors de l'homélie célébrée ce mardi matin à la chapelle de la maison Sainte-Marthe au Vatican. Nonobstant nos faiblesses, a répété le pape, le Christ nous fait toujours confiance et un horizon plus large que nos limites s'ouvre. Le pape François réaffirme une vérité et une séquence décrite par saint Jacques dans un passage de sa lettre proposée par la liturgie de ce jour. La vérité, c'est que ce n'est jamais Dieu qui tente l'homme, mais bien ses passions. En outre, poursuit le pape François, la tentation cherche quelqu'un d'autre pour lui tenir compagnie. Elle contamine. Et dans cette croissance et cette contagion, la tentation nous enferme dans un milieu dont on ne sort pas facilement. Lorsque nous sommes tentés, nous n'écoutons pas la parole de Dieu, nous n'écoutons pas, nous ne comprenons pas, a répété le pape François. Or Dieu nous fait confiance, et c'est avec cette confiance qu'il nous accompagne et nous aide à ne pas céder à la tentation. On reste au Vatican où les auditions du Conseil des huit cardinaux se poursuivent. Ce mardi matin, ce G8 a écouté le rapport des membres de la commission pontificale référente sur l'Institut pour les œuvres de religion, parmi eux les cardinaux Raffaele Farina et Jean-Louis Torrent. Ils ont parlé des problèmes passés du Ior et de leur cause, de la situation d'aujourd'hui de la banque et surtout ont indiqué quelques pistes sur l'avenir de l'établissement. Parmi les huit cardinaux qui conseillent le pape, il y a le cardinal Oscar Maradiaga, l'archevêque de Tegucigalpa au Honduras et président de Caritas Internationalis. Dans une interview accordée au quotidien français La Croix, il a parlé des possibles réformes de la curie. Parmi celles qui lui tiennent à cœur, celle de la création hypothétique d'une congrégation pour les laïcs. Chaque jour, de plus en plus, les hommes et les femmes laïcs prennent leur co-responsabilité comme dirigeants dans l'Église, rappelle le prélat, qui voit bien d'ailleurs un conseil pontifical spécifiquement consacré aux familles et pourquoi pas dirigé par un couple marié. L'Université pontificale du Latran accueille à partir de ce mardi et ce jusqu'à jeudi un important symposium pour célébrer le cinquantenaire de la constitution conciliaire Sacrosanctum Concilium sur la Sainte Liturgie. Un texte promulgué le 4 décembre 1963 par Paul VI, un événement organisé par la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements qui a pour thème Sacrosanctum Concilium, gratitude et enseignement pour un grand mouvement de communion ecclésiale. Cette constitution est l'une des quatre grandes constitutions promulguées par le Concile Vatican II. Elle prévoyait un renouveau liturgique. Elle est à la base d'une importante réforme dont les grands principes sont une plus large place accordée à l'emploi de la langue du pays, une participation active des fidèles et une adaptation de la liturgie au caractère et aux traditions des différents peuples. En 50 ans, ce texte a fait l'objet de diverses interprétations et a suscité de nombreuses initiatives qui n'ont pas toutes fait l'unanimité. Autre réunion à Rome, celle de l'Assemblée générale de l'Académie pontificale pour la vie qui s'ouvre ce mercredi et ce pour 4 jours. Elle est dédiée au vieillissement et au handicap. Elle célébrera aussi le 20e anniversaire de sa création par Jean-Paul II, par le motu proprio Mysterium. Un atelier aura lieu le 20 février, sera ouvert au public, en particulier aux chercheurs, opérateurs sanitaires et aux étudiants qui veulent approfondir le thème de l'Assemblée sous différents angles, théologiques, philosophiques, éthiques, médico-sanitaires, culturels et sociaux. L'atelier sera composé de 3 sessions dédiées au handicap et conditions humaines, au vieillissement vers le handicap, les données et les problèmes, enfin au vieillissement vers le handicap, questions éthiques et propositions d'intervention. Religion et violence. C'est le thème d'une rencontre de travail qui se tiendra mercredi à Rome sous les auspices de la communauté Sant'Egidio. Elle réunira des personnalités religieuses chrétiennes, juives et musulmanes, ainsi que des spécialistes de la question et des diplomates. Ils réfléchiront ensemble et partageront leurs expériences autour de réalités multiples et symboliques telles que l'Afrique, la Syrie et le Proche-Orient, la zone indo-pakistanaise ou encore l'Iran et l'Irak. Parmi les intervenants à ce colloque, Olivier Roy, spécialiste de l'islam, professeur à l'Institut universitaire européen de Florence.
La question, c'est un petit peu de réfléchir sur ce qu'on entend par religion. parce qu'on associe violence et religion dans des contextes où le mot religion n'a pas du tout le même sens. Prenons un exemple, l'Irlande du Nord. Il y a donc une guerre entre guillemets entre protestants et catholiques, mais ça n'est pas du tout une guerre religieuse. C'est en fait une guerre quasiment ethnique entre deux identités différentes, les catholiques qui s'identifient à l'Irlande et les protestants qui s'identifient à la Grande-Bretagne. La question de la foi, la question du dogme n'est absolument pas en jeu dans cette question-là. Et donc je crois qu'il faut se méfier de cet usage purement identitaire du mot religieux. Il est clair, par exemple, qu'en ce moment, les conflits entre chiites et sunnites en Syrie n'ont rien de religieux. Les gens ne se battent pas pour des questions de théologie. Ils se battent pour des questions de démocratie, de pouvoir, d'alliances géostratégiques, etc., etc. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre ce qu'on pourrait appeler la violence purement religieuse, c'est-à-dire celle où il n'y a pas d'autres enjeux, ni ethniques, ni nationaux, ni économiques. Et ça, c'est une forme de violence plus spécifique, mais qui aujourd'hui existe. Par exemple, au Pakistan, on a une violence religieuse qui n'oppose pas les musulmans à un autre groupe, mais qui naît à l'intérieur même du groupe des musulmans.
Alors, selon vous, y a-t-il des religions plus enclines à la violence que d'autres, ou bien est-ce que cela dépend des époques ?
Oui, ça dépend des époques et des contextes. Je crois qu'un croyant devient violent quand il cesse d'être sûr de sa religion, soit parce qu'il se sent assiégé ou attaqué, et qu'il a l'impression, disons, de se défendre, hein, soit parce que, et dans le fond, sa foi n'est plus insérée dans une convivialité culturelle, sociale, avec les autres. Je crois que c'est l'isolement du religieux qui peut donner à la religion une forme de violence. Prenons quelques exemples. Il y a une violence purement religieuse au Pakistan. La minorité chrétienne au Pakistan, elle est toute petite, elle est complètement pacifique, etc. D'où vient donc la violence, par exemple, qui se fait contre les chrétiens ? Je crois précisément qu'elle vient de ce qu'une minorité de musulmans ne se sent plus en phase avec le monde ambiant, vit très mal ce qu'ils éprouvent comme une sécularisation, comme un changement de paradigme culturel. Et je crois que c'est ça le fond du problème. C'est pas tellement qu'on se sent menacé par un ennemi extérieur, c'est qu'on a l'impression que dans sa propre société, on a une mutation culturelle qui fait que la foi n'est plus liée à l'évidence sociale ou culturelle. Je vais prendre d'autres exemples. Boko Haram au Nigeria, c'est un peu la même chose. Boko Haram est très violent, mais également envers d'autres musulmans, pas seulement envers les chrétiens. Boko Haram, comme son nom l'indique, hein, c'est une protestation, une violence contre l'idée que c'est trop tard, que la culture locale est déjà sécularisée ou christianisée ou occidentalisée, etc. Et je crois qu'il y a une tentation de violence dans certains milieux chrétiens en Occident. C'est la même chose, c'est quand ils ont l'impression, à tort ou à raison, qu'ils ne sont plus en phase avec la culture dominante.
Des propos recueillis par Manuela Afigi. Il y a un an, le 12 février 2013, 9 membres des Femen, un groupe de féministes connus pour leur action coup de poing, seins nus, s'introduisaient dans Notre-Dame de Paris pour célébrer la renonciation du pape Benoît XVI. Devant des milliers de visiteurs, les jeunes femmes, un morceau de bois en main, frappèrent sur les 3 nouvelles cloches de la cathédrale, tout juste livrées pour le 850e anniversaire de Notre-Dame. Résultat, plus de 7000 euros de dégâts. Le procès des jeunes femmes activistes s'ouvre ce mercredi en France pour dégradation dans un lieu de culte en Réunion. Ce procès aurait dû avoir lieu l'année dernière, mais il a été repoussé car le parquet a demandé une enquête sur les violences ce jour-là entre les militantes et les agents de sécurité de la cathédrale. L'abbé Pierre-Hervé Grosjean, co-auteur du site Padre Blog, revient sur les attentes que suscite ce procès.
On a été très heureux que le président de la République, dans sa dernière conférence de presse, ait condamné officiellement, explicitement, les actes antichrétiens des Femen. Maintenant, il faut des actes. Il faut des actes pour montrer que dans une République apaisée, bien, le respect des religions n'est pas une option. Le respect des religions, le respect des croyances, le respect des lieux de culte s'impose à tous, quelle que soit la religion. Et au fond, c'est ça que nous attendons. On attend que ça se traduise, que ce respect se traduise dans les actes, par les décisions de justice, pour que ça soit un message compris de tous. Les chrétiens ont le droit au respect, ont droit au respect de leur lieu de culte, comme tous les autres, pas plus, pas moins que les autres.
Vous pensez donc qu'il n'y a pas eu assez de réactions suite à ces événements et de choses faites dans ce sens ?
Ce que je remarque, c'est qu'aujourd'hui, plus personne ne se trompe sur ce que sont les femmes. C'est pas un groupe féministe. Au contraire, elles insultent la cause des femmes parce qu'elles sont violentes, parce qu'elles sont haineuses, parce que c'est un groupe aux méthodes sectaires, aux méthodes violentes, qui ne fait que diffuser finalement la haine de la religion, de toutes les religions d'ailleurs. Et c'est pour ça que cette première victoire d'avoir démasqué les femmes, au fond d'avoir montré leur vrai visage, maintenant doit se poursuivre par une condamnation unanime, non seulement des élus, des responsables politiques, mais aussi qui se traduisent par des décisions de justice pour qu'il soit clair pour tous que le respect des uns et des autres, le respect des cultes, le respect des lieux de culte dans une république n'est pas une option. Je crois que la France, qui se veut une championne de la laïcité, eh bien, a là l'occasion de rappeler à tous que la laïcité, c'est le respect des religions, c'est le respect de tous.
Et pourtant, donc, malgré ce procès, l'une de ces femmes a déclaré qu'elles ne renonceront pas à leur droit de blasphème. Est-ce que vous pensez qu'il va falloir aller au-delà de ce procès ?
Il ne s'agit pas de limiter la liberté d'expression. Elles peuvent penser ce qu'elles veulent et dire ce qu'elles veulent. On est en démocratie. Simplement, on ne fait pas ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'il y a des actes. Là, on est en train de juger des actes violents. On est en train de juger une haine des religions. On est en train de juger une incitation à la haine. On est en train de juger des actes qui offensent gravement, qui sèment le trou, qui opposent, qui divisent, qui blessent la conscience de beaucoup de Français. Donc que les femmes pensent et se disent ce qu'elles veulent sur les religions, c'est une chose. Mais qu'elles viennent mettre le bazar dans nos églises, qu'elles viennent souiller les lieux de culte, quelle que soit la religion de ces lieux de culte, ça c'est inadmissible. Et ça la loi ne le permet pas. Donc on demande simplement le respect de la loi, on demande que les lieux de culte soient protégés, on demande que ces agressions-là soient condamnées par tous, avec la même véhémence, quelle que soit la religion, on demande simplement de pouvoir vivre en paix dans notre pays.
Et quelles seraient selon vous les conséquences s'il n'y a pas un message fort qui est donné lors de ce procès ?
Ce serait la République qui serait blessée en fait. Ce serait la démocratie qui serait blessée. Parce que quand on ne respecte pas les religions de chacun, quelles qu'elles soient, quand on ne respecte pas les gens, eh bien c'est toute la démocratie qui est victime, qui est blessée. C'est la paix et le bien commun, ce vivre ensemble qui est agressé. C'est ce que disait d'ailleurs le président, c'est que quand quelque part un lieu de culte, quelle que soit la religion, est attaqué, eh bien c'est toute la démocratie qui est attaquée, c'est toute la République qui est attaquée. Dans d'autres occasions, le gouvernement a su aller jusqu'à vouloir à mettre en place la dissolution de groupes extrémistes et violents. Eh bien, s'il fallait en arriver jusque-là, faisons-le. Mais soyons clairs, nous avons en face de nous, avec les femmes, non pas un groupe de pression, non pas des artistes, non pas des féministes, mais un groupe extrémiste et violent, et à mon avis, qui n'a pas sa place, si elle ne renonce pas à la violence, il n'a pas sa place, comme tous les groupes extrémistes et violents, dans une démocratie.
Des propos recueillis par Audrey Radondi. En Égypte, les chefs et représentants des principales confessions chrétiennes du pays se réunissent en assemblée en la cathédrale copte orthodoxe Saint-Marc au Caire. Ils célèbrent le premier anniversaire de la création du Conseil national des églises chrétiennes. Il y a un an, en effet, les chefs de cinq églises, la copte orthodoxe, la copte catholique, la grecque orthodoxe, la protestante et l'anglicane, s'étaient réunis en ce même lieu pour porter sur les fonts baptismaux cette institution fortement œcuménique dans un pays majoritairement musulman et en pleine tourmente révolutionnaire. Les précisions de Cyprien Viette.
Un an seulement d'existence et déjà des signes encourageants pour ce Conseil national des églises chrétiennes en Égypte. L'institution de ce conseil a été très importante pour nous tous, explique l'évêque copte catholique d'Assiout, Mgr Kyrillos William. Nous pouvons déjà en mesurer les effets au niveau local. Et de citer la semaine de prière pour l'unité des chrétiens pendant laquelle les fidèles ont été contents de voir prier ensemble les chefs des différentes confessions chrétiennes. Cette année, pour la première fois, poursuit l'évêque, un évêque copte catholique a prié dans une église copte orthodoxe. Ça n'était jamais arrivé. Ce nouveau climat entre les chrétiens égyptiens serait dû à la bonne volonté et à l'ouverture du patriarche copte orthodoxe Stavros II, par ailleurs engagé dans une réforme du mode d'élection du chef de la plus importante communauté chrétienne en Égypte. Le Conseil national des églises chrétiennes compte un comité de présidence, un secrétariat général et un comité exécutif, ainsi que 15 commissions dédiées à des questions et des domaines spécifiques qui se mettent en place petit à petit. Parmi ces commissions, une est consacrée à la théologie et pourrait aborder très vite des thèmes controversés comme le baptême que les coptes orthodoxes administrent aux chrétiens des autres confessions qui intègrent leur église. Selon le père Bishoy Elmi, prêtre copte orthodoxe, il existe 15 questions doctrinales et théologiques controversées qui peuvent être discutées entre copte orthodoxe et catholique.
Cyprien Viette. Et dans un pays dont le contexte politique est des plus mouvants, le Conseil des Églises ne veut pas prendre position sur les terrains politiques. Pas question en effet de conditionner les chrétiens dans leurs opinions, mais en tant que citoyens, bien évidemment, ils ont certes le droit de s'exprimer quand le bien du pays est en jeu. C'est ainsi que s'achève ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain. Même lieu, même heure.